Alors, si vous voulez vous lever, on va lire Apocalypse 18, et versets 20 à 24. Apocalypse 18, versets 20 à 24. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. » Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, donné comme titre au sermon d'aujourd'hui, Babylone la Grande est tombée, appel à la réjouissance. Donc, ce qu'on avait fait les semaines précédentes, on avait regardé dans le chapitre, début du chapitre 18, comment le Seigneur nous avait décrit un peu comment il était pour amener le jugement, et que il y avait trois catégories qui avaient été mentionnées au début du chapitre 18. Il y avait les rois de la terre, les marchands de la terre et tous ceux qui travaillaient, les travailleurs de la mer. Et il décrivait tout l'ensemble des choses qui étaient pour eux une occasion de deuil, de pleurs, de cris, de lamentations. Et là, il nous présente le même phénomène. Et pour eux, c'est du deuil, c'est des cris, c'est des pleurs. Et là, le Seigneur prend le même phénomène, puis il nous dit aux saints qui sont ceux qui sont dans le ciel et à ceux qui sont sur la terre, réjouissez-vous. On serait porté à dire, c'est rare qu'on voit que Dieu dit se réjouir des choses qu'on vient de lire avant dans le chapitre 18. Là. C'est toutes des choses de destruction, des choses de mort, des choses de perte d'argent, de perte de fortune, etc., etc. Puis le Seigneur, pour eux, il les laisse dans le jugement, mais pour les saints, ceux qui sont déjà dans le ciel et ceux qui sont encore sur la terre, il nous dit « Réjouissez-vous ». Quand ça vient de Dieu, là, il y a des gens qui, quand ils ont lu leurs commentaires sur ces passages-là, ils disent « Comment Dieu peut dire à des choses qui nous semblent hyper négatives, comment Dieu peut dire « Réjouissez-vous » ?» C'est parce qu'il est en train de rendre justice. Des justices, toutes les choses qui ont été faites, qui étaient mal, le Seigneur dit « Je vais maintenant rendre justice » et il invite ceux qui lui appartiennent à se réjouir. Très intéressant comme passage. Alors, j'avais déjà mentionné dans le début du chapitre 18 que les commentateurs diffèrent d'opinion sur l'identité de Babylone la Grande ici. Alors, nous, on avait regardé ça dans les leçons précédentes. Je vous rappelle simplement la position qu'on avait adoptée, que c'était Babylone la Grande, la religieuse. Parce que la Babylone, elle était assise, la prostituée était assise sur la bête. La bête représente plus le côté politique. On croit que nous, ici, il parle du jugement de Babylone la Grande, mais dans l'aspect religieux. Pourquoi on peut identifier l'Église catholique? Moi, je vois plus que l'Église catholique, je vois l'ensemble de tous ceux qui unissent leur voix, qui unissent leur pensée dans une religion mondiale. C'est ça que le Seigneur est en train de montrer, que ça va être détruit, cela. Et c'est pour ça qu'il invite les saints du ciel et ceux qui sont déjà au ciel à se réjouir. Alors, on avait vu ça dans les versets 1 à 6 du chapitre 17. Le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. On sait que les eaux représentent les peuples, donc elle est assise sur les eaux. Ça veut dire qu'elle contrôle l'ensemble des peuples de la terre par son influence, par sa richesse, et tout cela. Et ça disait qu'elle était assise sur une bête écarlate. On avait regardé dans les leçons précédentes aussi que la bête écarlate, c'est fort probablement l'aspect politique de la même Babylone la Grande. Ça avait été prophétisé. On relit le passage du chapitre, verset 1 à 6 du chapitre 17, parce qu'on va voir qu'il y a des liens en dessous. Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphèmes, et ayant sept têtes et dix cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme, enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Imaginez-vous Jean, à qui on lui montre un système religieux, et on lui montre que c'est, dans le fond, le système religieux est devenu, comme on avait lu dans d'autres passages, aussi un repère des démons. À quelque part, il y avait de quoi pour lui d'être dans une grande stupeur. On avait mentionné dans les leçons précédentes que, parce que quand on lit les commentateurs et qu'on a à identifier qui était Babylone la Grande, quand on lit dans le titre « Babylone la Grande est tombée », de quelle Babylone s'agit-il? S'agit-il de la Babylone religieuse ou Babylone politique? Moi, j'ai regardé les arguments des deux parties et je crois que c'est Babylone religieuse. On avait regardé ça la semaine dernière avec tous les arguments et l'autre semaine avant. On ne reviendra pas là-dessus, là, c'est juste qu'on croit que nous, c'est Babylone religieuse. Alors, on avait adopté cette position-là, que la prostituée représentait le système religieux et que la bête représentait le système politique. Dans le chapitre 18, le jugement décrit est celui du système religieux qui est corrompu par l'idolâtrie, la convoitise des richesses avoir corrompu la doctrine, la collaboration et le soutien du système politique de l'Antichrist. C'est assis dessus, là, quand on y pense. Là. Si la bête religieuse est assise sur la bête qui représente la politique, ça veut dire qu'elle le domine. Quand tu es assis sur quelque chose, d'habitude, tu le domines. Alors, elle a travaillé à faire monter le côté politique. Elle a collaboré avec, mais il arrive un temps où le Seigneur envoie son jugement. Alors, il y avait là-dedans toutes les activités de préparation de la religion mondiale apostate et aussi de pratiques démoniaques, parce qu'on avait vu dans les versets de nos leçons précédentes qu'elle était devenue un repère de démons. On parle de quelque chose de religieux, on dit que c'est devenu un repère de démons. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, là. Alors, elle était rendue un repère de démons, et aussi elle était plongée dans l'immoralité et la débauche. Quand on parle de la demeure des démons. Alors, la chute que le Seigneur a envoyé, parce qu'on parle, on est rendu à la partie où on a tout décrit qu'est-ce que le Seigneur va faire aux rois de la terre, qu'est-ce que le Seigneur va faire aux marchands de la terre, et qu'est-ce que le Seigneur va faire aux travailleurs de la mer. Tous ces gens-là ont collaboré au cours des siècles à ces choses-là. Alors, cette chute, elle va être dévastatrice. C'est pas quelque chose qui va se faire, ça va être une petite partie. Quand on parle d'un système, c'est gros. On a de la misère à imaginer à quel point c'est gros. Destruction totale. Destruction complète, irréversible. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, ça disait « en une heure ». Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Ils sont en train de dire que ça va se faire en 60 minutes. Je ne pense pas que c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que ça va se faire extrêmement rapidement. ils s'en attendront pas, et à un moment donné, le Seigneur va envoyer son jugement, et tout le gros système religieux, qui n'est pas biblique, qui n'est pas centré sur Christ, ça va s'écrouler. Même s'il y a énormément de richesses là-dedans, même s'ils sont rendus, qu'ils ont des communications avec les démons, le Seigneur va la détruire, et ça va être irréversible, total, complet. Ça, c'est intéressant. Pas pour rien que le Seigneur nous dit, réjouissez-vous. Alors, tous les collaborateurs, tous ceux qui ont collaboré avec ce système-là, vont être concernés. Les rois et les marchands de la terre, ainsi que les travailleurs de la mer, comme on avait vu dans les leçons précédentes. Ça va être un anéantissement total et complet. Tous les agents du mal vont pleurer. C'est ça que ça nous disait dans les leçons précédentes. Ils vont regarder le système se détruire, leur richesse leur être enlevée, leur source de plaisir malsain et pécheur vont leur être enlevée. Tout, ça va être vraiment là. Alors ils vont pleurer, ils vont se lamenter et ils vont s'apitoyer. Quand tu as beaucoup de richesses, puis tu as beaucoup de plaisir pécheur, puis que tout ça t'est enlevé du jour au lendemain, comme ça, vite de même, là, c'est sûr. Et c'est, je pense qu'il y a aussi l'idée que quand ils vont voir ça s'accomplir devant leurs yeux, ils ne seront pas sans penser « mon tour s'en vient ». Tu vois le système, tu as collaboré avec, tu vois le système s'écrouler parce que Dieu est en train de juger. Ceux qui sont des collaborateurs, là, c'est un peu comme quand il se produit quelque chose de mal dans la société et que le Seigneur décide de détruire quelque chose. C'est drôle, comme du jour au lendemain, tous ceux qui ont collaboré, ils connaissent plus. C'est comme l'être humain est fait comme ça. Alors, ils vont vivre, ils vont se lamenter, ils vont s'apitoyer, pauvre petit moi, et ils vont vivre dans la peur et l'angoisse du jugement final qu'ils pressentent. Sûr que quand ils voient une affaire de même, bien sûr, ils disent « mon tour de jugement terrestre, de jugement temporel dans le temps approche, mais ne sont pas sans avoir le jugement final dans l'esprit. » Et ça terrorise encore bien plus que juste perdre tes richesses. Alors, leur perte, eux autres, parce qu'ils ont dit qu'ils perdaient toutes, leurs pertes vont être énormes. Le Seigneur nous a montré comment ses ennemis ont été jugés. Et c'est ça qui est bizarre. Il commande maintenant à ses serviteurs. Vous remarquez ça, ses serviteurs, c'est pas juste les serviteurs de la terre. Ceux qui sont au ciel, ça veut dire qu'il y en a qui ont passé sur la terre, ils ont souffert, ils ont été maltraités, emprisonnés, torturés à Mathézan. Ils sont déjà au ciel. Mais le Seigneur, c'est comme s'il voulait dire, voici ce que je suis en train de faire. Vous qui êtes en haut, réjouissez-vous. Et vous qui êtes en bas, réjouissez-vous aussi. Parce que c'est ma justice qui est en train d'être installée. La justice parfaite de Dieu. Rendue manifeste. Le mot manifeste, ça veut dire rendu visible, rendu... C'est évident, là. Alors, la rétribution sera précise et adaptée aux fautes commises envers ses enfants et ses serviteurs. Ça, c'est important comme idée. Parce que le Seigneur ne dit pas juste qu'il va détruire, mais il va faire connaître à ceux qui étaient les collaborateurs de ce système-là, il va leur faire connaître des jugements qui vont être directement proportionnels à la gravité des fautes qu'ils ont faites. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être précis, puis ça va être adapté aux fautes qu'ils ont commises. Tu sais, la doctrine de la rétribution, souvent le Seigneur, disons qu'il veut, il veut punir un orgueilleux, bien, il va l'humilier. Il veut punir quelqu'un qui a abusé des riches, de la richesse des autres, bien, il va l'appauvrir. Alors, c'est ça la rétribution. Alors, toutes les manières dont ces gens-là ont contribué à maintenir le système religieux en place, eux, ils vont recevoir des jugements qui vont être justes, précis et adaptés à la faute qu'ils ont commise. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là, c'est pas juste une justice, n'importe comment, là. Une justice ajustée. Mais ajustée par la main de Dieu, c'est vraiment bien ajusté. Alors, on va regarder le verset 20. La réjouissance qui est commandée. Alors, c'est pas... Si ça vous tente, regardez, tout le système s'écrouler, là, ça vous tente, réjouissez-vous. C'est un commandement. Au ciel, verset 20, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Donc, c'est un commandement qui est inspiré de la prophétie. Parce qu'on avait vu la semaine dernière, dans notre leçon de la semaine dernière, qu'il y a des passages. Le Seigneur se sert dans l'Apocalypse d'images qui sont tirées de l'Ancien Testament pour nous montrer un parallèle qu'il y a, parce que là, je vous donne trois exemples, là, on va les passer un par un, avec l'Égypte, avec Tyr et avec Babylone. Et quand on relit ces passages-là dans l'Ancien Testament, on sait que, disons, l'Égypte, c'était une puissance mondiale énorme dans le temps, elle contrôlait toute chose. Quand le Seigneur a dit à Pharaon, « Laisse sortir mon peuple d'Égypte, Pharaon, il s'est entêté », on sait que toutes les 10 les displays d'Égypte que le Seigneur a envoyé. Mais à un moment donné, le peuple est sorti. Et là, Pharaon, il a comme changé d'idée. OK. Là, il est allé, puis là, la mer s'est ouverte, ils ont passé. Et là, ils se sont engagés, l'armée égyptienne, à la suite du peuple de Dieu. Dieu a permis. Ils ont toute la gang écrasée. Après ça, il prend aussi l'exemple de Tyr et il prend l'exemple de Babylone. Parce que c'est le vocabulaire qui nous montre que la Bible utilise souvent son propre vocabulaire, ses propres histoires pour illustrer quelque chose qu'il veut nous montrer dans le Nouveau Testament. Alors, dans nos sermons précédents, on avait constaté que le Seigneur utilise souvent des exemples tirés de l'Ancien Testament, comme la destruction de l'Égypte, Exode 14, versets 26 à 28. On pourrait aller bien dans beaucoup de détails, mais on va se contenter des grandes lignes. De Tyr, Ézéchiel 28, verset 1 à 18, comme type du système de Satan, et de Babylone, dans Ésaïe 14, verset 9 à 14, pour illustrer comment son jugement fonctionne. Ceux qui sont familiers un petit peu avec l'origine du mal, Satan, souvent c'est dans ces passages-là, dans Ézéchiel 28 puis Ésaïe 14 qu'on trouve ces choses-là. Il est en train de montrer que le Seigneur va faire la même chose avec le gros système à la fin. On relit juste l'Exode, chapitre 24, verset 26 à 28, pour voir le parallèle qu'il y avait entre ce que le Seigneur a fait à l'époque avec les Égyptiens et la sortie de son peuple d'Égypte et avec ce qu'il va faire quand il va détruire. Alors, on relit Exode 24, verset 26 à 28. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit. Et les Égyptiens, s'enfuyant, la rencontrèrent. Et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Je pense que le Seigneur est en train de nous montrer comment il travaille. Des fois, c'est long, il est patient. Mais quand ça arrive, c'est bien fait, comme on dit. On prend un autre exemple. Parce qu'Ézéchiel 28, la semaine dernière, je vous avais donné des documents. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de les lire. Ézéchiel, chapitre 28, verset 1 à 18. C'est intéressant parce qu'il est en train de nous parler. Tyr, à l'époque, c'était une ville extrêmement puissante, militaire, et qui était rendue très orgueilleuse, qui pensait qu'elle était à l'abri de toute attaque. C'est arrivé plus qu'une fois dans l'histoire. C'est arrivé avec Tyr, c'est arrivé avec Babylone. Le Seigneur utilise des fois le vocabulaire, parce que ceux qui étudient l'Apocalypse d'Aplon, ils se rendent compte que souvent, il y a du vocabulaire qui vient de ces passages-là. Ézéchiel 28, verset 1 à 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, parce que tu penses être un Dieu. Certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as accru ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Et à cause de ta puissance, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu penses être un Dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, qui tireront leurs épées contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras, comme meurent les blessés à mort au milieu des mers. En face de ton serviteur, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis un Dieu, tandis que tu n'es qu'un homme et non un Dieu, entre les mains de celui qui t'égorgera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel m'est fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. C'est pour ça qu'on pense à faire référence à Lucifer, à Satan. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. La créature qui se prend pour Dieu. C'est ça, Satan. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre. Je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres pour toute la terre en présence de ceux qui te regardent. Voyez-vous, à l'époque, ils pensaient qu'ils étaient atteint le sommet de la protection, que rien ne pouvait leur arriver. Mais c'est exactement la même chose que Babylone la Grande a fait. Elle était rendue tellement arrogante qu'elle a dit « Qui peut combattre contre elle? » Il était tellement sûr de leur coup qu'il avait atteint le sommet de la perfection qu'il osait dire des pareilles choses. Le Seigneur va lui montrer qui peut combattre contre elle. Lui peut combattre contre elle. Ésaïe 14, versets 9 à 14. « Le sépulcre profond s'émeut devant toi pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépassés, tous les puissants de la terre. » Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole et te disent, « Toi aussi, te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue au sépulcre avec le son de tes lyres. Tu es couché sur une couche de verre et la corruption est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer ?» Fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, la Babylone la Grande de la fin des temps, va être comme ça aussi, ils vont grimper, ils vont monter un système en épingle et ils vont tellement penser qu'ils ont atteint la perfection, là, qu'ils vont oser dire qui veut combattre contre elle. Plus personne ne va s'assassiner contre elle, tellement elle va être puissante. Très intéressant. Alors, on peut très facilement se rattacher le passage qu'on est en train d'étudier avec d'autres exemples de l'Ancien Testament où Dieu a détruit ses ennemis de façon évidente, de façon totale aussi, un peu comme on lit dans ces passages-là. Et on voit aussi dans le verset 20 qu'il y a une autre idée qui est mentionnée, c'est celle qui est un commandement universel pour les serviteurs de Dieu, pas uniquement tout le monde. Alors, tu as deux sortes, les serviteurs de Dieu, au ciel, réjouis-toi. Ça veut dire qu'il y a déjà, est-ce qu'on inclut les anges là-dedans? Je le crois, parce que dans les Écritures, on dit que les anges désirent plonger leur regard là-dedans. Ils veulent voir. Parce qu'ils voient toutes sortes de choses, et Dieu va permettre, même les anges vont se réjouir. Mais ceux qui sont des croyants, soit dans l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui sont déjà au ciel, quand les choses vont arriver, Dieu va dire, réjouis-vous, au ciel, réjouis-toi. Et il y a aussi les serviteurs terrestres, il dit, ainsi que vous, saints, apôtres et prophètes. Donc les saints, c'est tous les croyants, les apôtres, les prophètes, tous ceux de... Il est très intéressant de noter que plusieurs commentateurs mentionnent que la dernière partie du verset qui dit « Car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. » Voici, ils disent, ça a été traduit comme ça, mais quand les gens embarquent dans le grec et qu'ils commencent à regarder les différentes façons dont ça aurait pu être traduit. Moi, je trouve que les façons que ça aurait pu être traduit sont très, très... Ils parlent fort, comme on dit. Pour ça que je vous dis que ceux qui ont la responsabilité de traduire les Écritures à partir des textes originaux, ils ont une immense responsabilité. Parce que des fois, si tu ne traduis pas comme du monde, tu trahis un petit peu. Trahison ici, trahison là, tu finis par... amoindrir la force de la puissance de Dieu. Voici, je suis allé chercher le même verset, mais dans la version Lausanne. La version Lausanne, c'est une version qui est renommée comme étant extrêmement littérale. On ne traduit pas par équivalence dynamique, on traduit du mot à mot le plus possible, en respectant le sens que ça peut avoir dans une langue autre, mais il reste que c'est... Voici qu'est-ce qu'a dit la Lausanne. « Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous, les saints envoyés et les prophètes, parce que... » Écoutez bien ce que ça dit, c'est différent de l'autre. « Parce que Dieu a révisé le jugement prononcé. » Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu a regardé tout ce que les méchants ont fait à son peuple au cours de l'histoire, au cours. Et il a révisé, ça veut dire qu'il a tout regardé de nouveau. Réviser, ça veut dire que tu le revises, tu le vois deuxième fois. Tu le regardes, Dieu a regardé l'ensemble de tout le mal que les ennemis ont fait à son peuple dans l'histoire. Et il n'y a pas de responsabilité qui est pareille. Dans le temps, c'était des chefs de pays, il y avait des gars qui travaillaient dans les prisons, il y avait des gars qui étaient dans l'armée, il y avait toutes sortes de gars, là. Et ils ont tous fait du mal aux enfants de Dieu, mais pas de la même façon. Le Seigneur est en train de dire, réjouis-toi sur elle, ciel et vous, les saints envoyés, les prophètes, parce que Dieu a révisé ou a jugé le jugement prononcé contre vous par elle. Autrement dit, ce que ces gens-là ont fait, Dieu est en train de tenir compte dans son jugement de ce que ces gens-là ont fait dans les détails. Il a révisé. Moi, je trouve que c'est extrêmement plus riche que l'autre. C'est beaucoup plus riche, en tout cas, à mon avis. Le sens serait donc, Dieu a envoyé son jugement parce qu'il a révisé tous les jugements injustes de ses ennemis sur ses serviteurs. Imaginez, Dieu, avant de décider d'envoyer tout ça, regarde l'implication et le degré de mal que ces gens-là ont fait de façon individuelle. Et tout va être ajusté en fonction de leur implication et de leur degré de méchanceté là-dedans. C'est là qu'on... Moi, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve que c'est... Là, tu vois la justice du Seigneur. Pas la justice des hommes. On détruit ça tout en même temps, puis... La justice, c'est extraordinaire. Tu sais, des fois, j'entends des chrétiens qui disent « j'ai soif de la justice de Dieu. Moi, je peux vous dire souvent que je regarde ce qui se passe en terre. Je dis souvent, j'ai soif de la justice de Dieu. Parce qu'il y en a qui font des choses extraordinairement méchantes, extraordinairement cruelles. Et on dirait qu'ils s'en sortent tout le temps à cause qu'ils ont des bons avocats qui lui donnent des sommes extraordinaires. Puis on dira, c'est des gars qui sont souvent les plus hauts dans la structure sociale. Ils ont plein d'argent, font des voyages. C'est des voleurs! Des meurtriers! Puis nous autres, on est là, on les applaudit. Bon, souvent, malheureusement. Mais le Seigneur, il ne fonctionne pas comme nous autres. Nous autres, on est capable d'applaudir quelqu'un qui est un meurtrier, puis qui est un voleur, puis qui est un fraudeur. Mais le Seigneur, lui, voit dans les cœurs toutes les petites manigances qui sont faites par en arrière. Lui, il sait tout, puis un jour, ils vont toutes sortir. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, parce que le Seigneur, il nous dit qu'un jour, il va envoyer ses jugements, puis il nous dit qu'on va être rassasiés. Rassasiés, ça veut dire que tu vas en avoir assez vu, là. On dit, OK, correct. Je suis content, je ne veux pas en voir plus, je n'ai assez vu. C'est ça que le Seigneur va faire. OK, le troisième chose qui fait partie du verset 20, c'est un commandement qui est justificateur. Le jugement du Seigneur n'est pas basé sur un désir de vengeance, aussi légitime soit-il, mais il est strict et appliqué de façon appropriée et selon la nature exacte des péchés de violence commis envers ses enfants, ses serviteurs et ses prophètes. C'est sûr que tous ceux, si on regarde l'histoire de l'Église, quelqu'un qui a étudié un petit peu l'histoire de l'Église, la Réforme, et bien avant ça, là, toute l'histoire de l'Église au complet, là, il y en a eu des péchés de violence qui ont été commis. Pas tout le monde se sont impliqués au même degré, mais le Seigneur va tenir compte de toute l'implication, de tout ce qu'ils ont fait de façon détaillée, et les jugements vont être appropriés. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est pas un jugement à la porte-pièce de tout un groupe sans tenir compte de toutes les nuances qu'il peut y avoir à l'intérieur de tout cela. Voyez-vous, le psaume 96, versets 10 à 13, nous parle justement des jugements du Seigneur qui sont faits avec équité, avec justice et selon sa fidélité. Verset 10. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme et ne chancelle point. » Il jugera les peuples avec équité. Que les cieux se réjouissent et que la terre tressaille de joie. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que les campagnes s'égaient avec tout ce qui est en elles. Que tous les arbres des forêts chantent de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Ça peut être plus extraordinaire que ça. Là, peut-être qu'ils passent à travers à cause des avocats, puis de leur richesse, puis de leur contact, comme on dit. Ah, ben, il y a des contacts, mais je connais le ministre de la Justice. Ça ne marchera plus. C'est très intéressant. Et aussi, faire le lien avec un autre passage qu'on avait regardé dans Apocalypse au chapitre 6. Où on avait vu les saints qui demandaient au Seigneur justice. Voyez-vous, on lit dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. « Et quand l'agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à grande voix en disant, « Jusqu'à quand, ô souverain ?» Le Saint et le Véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et on leur donna chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire que si je permets que le système continue, c'est parce qu'il y a des saints, il y a des martyrs que Dieu voit dans son omniscience, qui ne sont pas encore rentrés dans son Église, et il avait dit, voyez-vous, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Autrement dit, il y avait encore des martyrs qui devaient Ça devait s'exécuter. Tu sais, des fois, on parle, on dit Dieu, ah, oh, Dieu, quand il va arriver des choses difficiles, il va tout protéger ses enfants. Oui. Ou des fois, oui. Puis, des fois, il laisse fuir les choses, puis il ne nous dit pas pourquoi. Alors, il y a de quoi, des fois, on vient troubler parce qu'on se dit, ben oui, mais tu es un enfant de Dieu, je suis un croyant, comment ça se fait qu'il laisse ça arriver? La Bible ne nous dit jamais pourquoi. Dieu ne rend pas de compte. Il ne nous rendra jamais des comptes. Et la seule chose, il nous dit que tout contribue dans son plan à sa gloire et au plus grand bien-être de tous ses enfants. Alors, quelque part, il faut faire confiance à Dieu. Par la foi, on est souvent amené à ce point-là. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la leçon dans 2 semaines. Thank you.